Ah, pensa Matt, le visage si près de ses cartes que son nez les touchait presque. D'un geste, il fit comprendre à Mika de lui ouvrir un portail horizontal. Bien sûr, il aurait pu voyager jusqu'à la colline de Dachar, mais la dernière fois, des Shariens avaient pris pour cible, dévastant une partie du sommet. De plus, malgré sa hauteur, la colline ne lui permettait pas de voir ce qui se passait sur le versant occidental du plateau de Polov. S'accrochant à la table, comme d'habitude, il se pencha sur le champ de bataille. Près de la rivière, les forces d'Elaine étaient contraintes de reculer. Heureusement, des archers mobiles protégeaient leur flanc droit. Mais ces Trollocs, par le sang et les cendres, avaient une puissance de poussée presque équivalente à une charge de cavalerie. Du coup, Matt avait envoyé un message à Elaine, afin qu'elle dispose ses cavaliers derrière ses piquiers. « Comme lorsque j'ai combattu Sana Ashraf aux chutes de Pena », pensa le jeune flambeur. Cavalerie lourde, archer monté, cavalerie lourde, archer monté, les uns après les autres. « Tairein dai ochin diebsene ». Matt n'avait pas souvenir de s'être autant engagé dans une bataille. Peut-être parce qu'il ne l'avait pas entièrement dirigé, le combat contre les Shaido ne l'avait pas autant absorbé. Et celui contre Elbar n'avait pas été aussi satisfaisant. De plus, tout ça s'était déroulé sur une bien plus petite échelle. Demandred aussi savait rudement bien flamber. Matt le sentait dans ses mouvements de troupe. À l'évidence, il jouait contre un des meilleurs stratèges de l'histoire. Et l'enjeu, cette fois, n'était pas de l'argent. Il lançait les dés pour que des hommes vivent ou meurent, et la mise ultime, ce serait le monde. Un fichu jeu par le sang et les cendres. Mais qui l'excitait au plus haut point. Il s'en sentait coupable, mais c'était ainsi.
L'âne est en position,
dit-il, en abandonnant le portail pour revenir devant ses cartes et y ajouter quelques notes.
Qu'on lui dise de frapper.
Les Trollocs qui traversaient la rivière près des ruines devaient être écrasés. Matt avait fait contourner le plateau aux frontaliers afin qu'ils attaquent les lignes arrière de ces monstres. Pendant ce temps, Tam et ses unités combinées continuaient à harceler les premières lignes. Avant et après que la rivière se fût tarie, ces braves avaient tué énormément de Trollocs. Du coup, cette horde était proche du point de rupture. Une action coordonnée des deux côtés aurait toutes les chances d'en venir à bout. Épuisés, les hommes de Tam pourraient-ils tenir jusqu'à l'arrivée de l'âne, qui prendrait les Trollocs à revers? Eh bien, il fallait l'espérer, sinon... Soudain, une silhouette se découpa dans l'entrée de la salle de commandement. Tournant la tête, Matt vit un grand type aux cheveux noirs bouclés sanglé dans une veste d'achaman. À part ça, le gaillard tirait la tête d'un joueur qui vient de recevoir une main perdante. Un Trolloc aurait été mal à l'aise sous son regard. Alors qu'elle conversait avec Tuan, Min en eut le souffle coupé. Pour elle, Loghain semblait avoir un regard encore plus... glacial. Matt se redressa et s'épousta les mains.
« Loghain, j'espère que tu n'as rien fait de désagréable aux gardes. »
« Les flux d'air se dénoueront tout seuls dans une minute ou deux, » répondit sans aménité la chamane. « Je doute que tes Sianchaniens m'auraient laissé entrer. »
Matt regarda Tuon, soudain aussi raide qu'un tablier un peu trop amidonné. Les Sianchaniens se méfiaient des hommes capables de canaliser, alors d'un type comme Loghain.
« Loghain, » dit Matt, « j'ai besoin que tu combattes aux côtés des forces de la Tour Blanche. Les Ayades de Shara font un massacre. »
Mais Loghain défiait Tuon du regard. Et rien d'autre ne semblait l'intéresser.
« Au cas où tu n'aurais pas remarqué, »
fit Matt,
« nous livrons une fichue guerre ici. »«
Ce n'est pas ma guerre. »«
C'est la nôtre !»
rugit Matt.
« Tous, autant que nous sommes !»«
Je me suis dressé afin de combattre, »
lâcha Loghain.
« Pour quelle récompense ?»« Demande à la Jarouge. Ses sœurs te diront comment on traite un homme induit en erreur par la trame. »
Il ricana sinistrement.
« Elle exigeait un dragon. » Alors je me suis présenté. Trop tôt. Un tout petit peu trop tôt, oui.
Bon,
fit Matt en approchant du bonhomme.
Tu es furieux parce que tu n'as pas réussi à être le dragon?
Non, rien de si mesquin. Je suis un partisan du seigneur dragon. Le laisser mourir? Non. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais Ashaman et moi, nous devrions être à ses côtés, pas en train de nous battre ici. Cette escarmouche avec pour enjeu quelques petites vies d'hommes n'est rien comparé à ce qui se passe au mont Chagalgoul. Pourtant, tu sais que nous avons besoin de toi ici. Sinon, tu serais déjà parti.
Loghain ne répondit pas.
Va rejoindre Egwen,
dit Matt.
Prends tous tes hommes et allez neutraliser les tissages meurtriers des Ayades.
Et Demandred?
Demanda Loghain.
Il défie le dragon. Il a la puissance de 10 hommes. Aucun de nous ne peut l'affronter.
Mais tu veux essayer, c'est ça? Voilà pourquoi tu es ici. « Tu veux que je t'envoie ferrailler contre lui ?»
Loghain hésita, puis il hocha la tête.
Le dragon réincarné, il ne pourra pas l'avoir. Donc, il devra se contenter de moi. Une sorte de remplaçant, si tu veux.
Par le fichu sang et les maudites cendres, ils sont tous cinglés.
Certes, mais contre un rejeté, que pouvait faire Matt? Pour l'heure, son plan consistait à occuper en permanence des Mandred. Frapper pour le forcer à riposter. Quand il devait se comporter comme un général, se rejeter de malheur faisait moins de dégâts avec le pouvoir. Mais tôt ou tard, Matt devrait trouver une vraie solution. Depuis le début de la bataille, il réfléchissait à cette question, sans avoir eu le commencement d'une idée. Matt regarda de nouveau par son portail. Elaine subissait une pression trop forte. Il fallait faire quelque chose. Lui envoyer les Séanchaniens? Pour le moment, ils étaient postés à la lisière sud du champ de Merilor, sur une berge du fleuve Erinin. Contre Demandred, ils étaient son atout caché. Celui qui empêcherait le rejeté de jeter toutes ses forces dans les batailles qui faisaient rage autour du plateau. En outre, il avait des plans pour eux, très importants. Selon lui, Loghain n'avait pas l'ombre d'une chance contre Demandred. Pourtant, le problème du rejeté devrait être résolu. Si la chamane voulait s'y coller, libre à lui.
« Tu peux l'affronter, »
dit le jeune flambeur.
« Tout de suite, ou quand il sera un peu plus faible, en supposant qu'on parvienne à l'affaiblir. Mais je te laisse libre de décider. Choisis ton moment et fonce. »
Loghain sourit. Puis il ouvrit un portail au milieu de la pièce et le traversa, main sur la poignée de son épée. À l'évidence, ce type était assez orgueilleux pour faire un dragon réincarné. Matt secoua la tête. En aurait-il fini un jour avec tous ses chefs de ceci ou de cela? Pour l'instant, il en était un, mais ça s'arrangerait. Pour ça, il lui suffirait de convaincre Tuan de renoncer à son trône et de s'enfuir avec lui. Un sacré défi? Mais bon sang, il était en train de livrer l'ultime bataille. Comparé à ce défi-là, Tuan n'était pas un obstacle insurmontable.
« La gloire des hommes !»
souffla Mine.
« Elle est encore à venir. »«
Que quelqu'un aille voir comment vont ces gardes !»
ordonna Matt avant de se repencher sur ses cartes.
« Tuan, on devrait te déplacer. Cet endroit n'a jamais été sûr, comme Loghain vient de le démontrer. »«
Je suis capable de me protéger !»
fit l'impératrice d'un ton hautain. « Trop hautain !» Quand Matt arqua un sourcil à son intention, elle hocha la tête.
« Vraiment ?»
pensa Matt.
« C'est à ce sujet que tu veux qu'on se dispute ?»
Il n'aurait pas parié que l'espion avalerait la couleuvre. Un motif trop peu solide. Son plan avec Tuan reposait sur la méthode que Rand avait naguère utilisée avec Perrine. S'il pouvait feindre une séparation entre les Séanchaniens et lui, à cause d'une dispute qui inciterait Tuan à retirer ses troupes, les ténèbres oublieraient peut-être sa femme. Mais il fallait que ce soit crédible. Deux gardes entrèrent dans la salle. Non, trois, mais le dernier passait finalement inaperçu. Matt secoua la tête à l'intention de son épouse. Il devrait vraiment trouver un motif de dispute plus crédible, et s'intéressa de nouveau à ses cartes. Mais quelque chose le tracassait au sujet du petit garde qu'on ne remarquait pas.
« Il a plus l'air d'un domestique que d'un soldat, »
songea-t-il. Alors qu'il n'aurait pas dû se laisser distraire ainsi, Matt leva quand même la tête. À présent, le type était debout près de sa grande table. Aucune raison ne lui accordait son attention, même s'il était en train de dégainer un couteau.
« Un couteau ?»
Matt recula alors que l'homme gris attaquait, puis il tira de sa ceinture la plus proche de ses nombreuses lames.
« On canalise le pouvoir !»
cria soudain Mika.
« Pas loin d'ici !»
Au moment où un mur du poste de commandement s'embrasait, Mine se jeta sur Fortuna. À travers l'ouverture ménagée par les flammes, des chariens en armure composée de bandes de métal déboulèrent dans la salle. Le visage tatoué, des femmes et des hommes aptes à canaliser les suivirent, les unes en longue robe noire droite, les autres torse nus au-dessus d'un pantalon en lambeaux. Matt les aperçut une seconde avant de renverser le trône de Fortuna. Une lance de flamme passa au-dessus de la tête de la jeune femme, roussissant ses habits de soie avant d'aller consumer un mur. Échappant à l'emprise de Mine, Fortuna se mit en garde. De quoi en arrondir les yeux de surprise. Débarrassée de son encombrante tenue, conçue pour qu'on puisse en délester très vite, l'impératrice portait dessous un pantalon et une chemise de soie, tous les deux noirs, bien entendu. Tuan approcha, un couteau à la main, et eut un grognement presque féroce. Près d'elle, Matt bascula soudain sur le sol, renversé par un type armé d'un couteau. D'où sortait-il celui-là? Tuan ne se rappelait pas l'avoir vu entrer. Alors que les ayades des deux sexes flanquaient le feu au bâtiment, Tuan courut vers son mari. Gêné par ses frusques, Mine se releva d'un bond, dégaina une de ses lames, et s'adossa au trône alors que le sol commençait à trembler. Dans l'impossibilité d'atteindre Fortuna, elle se força à traverser le mur du fond, composé de Tenmi, un matériau proche du parchemin appelé ainsi par les Séanchaniens. Mine toussa à cause de la fumée. Pourtant, dehors, l'air était plus sain que dedans. De ce côté du bâtiment, que la lumière en soit louée, il n'y avait pas l'ombre d'un ennemi, car tous attaquaient depuis d'autres directions. Les gens qui maniaient le pouvoir étaient dangereux, mais si elle parvenait à en étriper un, tous les tissages du monde ne changeraient rien au destin de sa victime. Allant jeter un coup d'œil à l'angle du bâtiment, Mine fut surprise de voir un type accroupi dans l'ombre, les yeux luisants de férocité. Le visage anguleux, il s'était fait tatouer des sortes de griffes noires autour du cou. Un contraste saisissant avec sa peau très pâle. Quand il se retourna, Mine se jeta en arrière. La lance de flamme évitée, elle lança son couteau. L'homme le rattrapa au vol et avança, un sourire bestial sur les lèvres. Puis il sursauta et s'écroula. Une voix de femme retentit.
« Je ne suis pas censé savoir le faire, mais arrêter le cœur de quelqu'un avec le pouvoir est un moyen très discret de tuer. Et il n'y a pas besoin d'être puissante, ce qui tombe bien dans mon cas. »
« Siouan !»
s'écria Mine.
« Tu ne devrais pas être ici !»«
Eh bien, félicite-toi que j'y sois !»
Avec un rictus, la sœur inspecta le cadavre.
« Bon, ce n'est pas très ragoûtant, mais quand on veut manger un poisson, il faut être prêt à le vider. »«
Qu'est-ce qui cloche, petite ? Tu ne risques plus rien. Inutile de faire une syncope. »«
Tu ne devrais pas être là ! Je t'ai dit de rester près de Garrett Byrne !»«
C'est ce que j'ai fait, figure-toi.
Une bonne chose, parce qu'on s'est mutuellement sauvé la vie. » Donc ta vision était juste. Il t'arrive de te tromper ?
Non, jamais, je te l'ai dit.
Siouan, autour de Brine, j'ai vu une aura signifiant que vous deviez rester ensemble, faute de quoi vous seriez condamnés tous les deux. Cette aura, je la vois au-dessus de toi en cet instant. Quoi que tu penses faire, la vision n'est pas encore accomplie. Elle est toujours là.
Siouan mit un petit moment avant de réagir.
Coton est en danger. Mais, je n'ai rien à faire de tes mets, petite.
Soudain, le sol trembla avec la puissance caractéristique du pouvoir de l'unique. Les Damans venaient d'entrer dans le jeu.
« Si Coton tombe, »
continua Siouan,
« nous perdrons. Je me fiche que nous mourions ou pas. Il faut l'aider. En route !»
Mine acquiesça, puis, avec la sœur, contourna le bâtiment dévasté. Alentour, le combat de tissage faisait rage. Des gardes de la mort chargèrent les chariens, épées au clair, oubliant que leurs compagnons se faisaient massacrer autour d'eux. Une charge qui tiendrait occupée les Ayad, lanceurs d'éclairs et de boules de feu. Une telle chaleur se dégageait du poste de commandement en feu que Mine dut reculer et se protéger les yeux en levant un bras.
« Résiste !»
lui souffla Siouan. Avec le pouvoir, elle tissa une sorte de colonne d'eau, puis les aspergea toutes les deux.
« Je vais essayer d'étouffer un peu l'incendie !»
dit-elle en orientant son tissage vers le poste de commandement.
« Voilà. Allons-y !»
Mine bondit à travers les flammes et Siouan la suivit. Dans la salle, tous les murs en ennemis flambaient comme de la paille, et du feu tombait du plafond.
« Là !»
cria Mine en battant des paupières pour chasser la fumée de ses yeux. Elle désigna des silhouettes sombres qui se battaient près de la table aux cartes. À première vue, Matt en décousait contre trois ou quatre personnes. Des hommes gris, tous. Tuon gisait sur le sol. Mine passa à côté des cadavres d'une damane et de plusieurs gardes. Avec le pouvoir, Siouan écarta de Matt un des hommes gris. Dans un coin, près d'autres dépouilles de gardes, une damane avait survécu. Recroquevillée sur elle-même, sa chaîne gisant par terre, elle tremblait de terreur. Raide morte, sa souldame était étendue non loin de là. Dans le chaos, elle avait lâché la chaîne du collier, puis s'était fait tuer en essayant de rejoindre sa damane. Mine prit la fille par le bras et la secoua.
« Fais quelque chose !»
cria-t-elle. La damane secoua la tête.
« Que la lumière te... »
commença Mine. Le plafond grinçant sinistrement, elle courut rejoindre Matt. Un homme gris était mort, mais il en restait deux, en uniforme du Séanchan. Pour voir les survivants, Mine dut faire un effort. En toute chose, ils étaient dépourvus de caractéristiques saillantes. Des anonymes de métier. Avec son couteau, Matt les tenait à distance, mais il aurait eu besoin de sa lance. Où la trouver dans cet enfer ? Pour avoir un peu trop avancé, le jeune flambeur récolta une entaille au flanc. Pourquoi prenait-il tant de risques ?
À cause de Tuon,
comprit Mine. Agenouillé près de l'impératrice évanouie, un homme gris levait son bras armé. Mine lança son couteau. Matt s'étala sur le sol, pas loin de Tuon. L'autre homme gris le tenait par les jambes. La lame de Mine fendit l'air, refléta la lueur des flammes, puis s'enfonça dans la poitrine du tueur qui s'en prenait à Tuon. La compagne de Rand soupira de soulagement. De sa vie, elle n'avait jamais été si heureuse de voir un couteau faire mouche. Se retournant, Matt décocha un coup de pied dans la figure du dernier tueur. Il enchaîna par un coup de couteau, puis rampa jusqu'à Tuan, se releva et la hissa sur son épaule. Min le rejoignit.
« Siouan est là aussi, elle !»
Matt tendit un bras. Siouan gisait sur le sol, les yeux vides. Autour d'elle, il n'y avait plus d'image. Morte. Min crut que son cœur allait exploser. « Siouan !» Incapable de croire à sa fin, elle approcha de la sœur, dont les vêtements fumaient après l'explosion qui l'avait tuée, détruisant la moitié d'un mur derrière elle.
« On sort !»
cria Matt. D'un coup de son épaule libre, il défonça un mur qui tenait encore debout par miracle. Min abandonna la dépouille de Siouan. Des larmes dans les yeux, le chagrin et la fumée, elle suivit Matt en toussant comme une perdue. Dehors, l'air était si doux et si frais. Dans le dos des trois miraculés, le bâtiment s'écroula. En un clin d'œil, des gardes de la mort entourèrent le trio. Aucun n'essaya de prendre Tuan à Matt, qui la tenait dans ses bras comme un bébé. Quand elle vit la lueur dans l'œil unique du jeune homme, Min comprit qu'ils avaient bien fait de ne pas essayer. Tuan respirait encore, mais très faiblement.
« Adieu, Siouan !»
pensa Min, alors que les gardes les entraînaient loin des combats qui continuaient au pied de la colline de Dachar.
« Puisse le Créateur accueillir ton âme !»
Il faudrait dire aux soldats de protéger particulièrement Brain, mais ça ne servirait à rien, Min le savait. Au moment de la mort de son Aes Sedai, il avait dû sombrer dans une rage aveugle. Et de toute façon, il y avait les visions. Elles ne se trompaient jamais. Souvent, Min détestait pour ça. Mais c'était ainsi.
« Visez leur tissage !»
cria Egwene.
« Je vais attaquer !»
Elle n'attendit pas de voir si on lui obéissait. Absorbant autant de pouvoir qu'elle en était capable, avec le sang réel de Vora, la quantité se révélait énorme, elle expédia trois bandes de feu différentes sur les chariens retranchés en haut du versant. Autour d'elle, les soldats de Brain, très bien entraînés, luttaient pour maintenir les lignes tout en ferraillant contre d'autres chariens. L'idée était de gravir le versant oriental du plateau, mais sur un terrain dévasté par les tissages des deux camps, la partie n'était pas facile. Egwene se battait férocement, car elle sentait la présence de Gawain là-haut. Hélas, il devait être inconscient, parce qu'elle ne captait plus qu'une étincelle de vie trop faible pour lui indiquer une direction précise. Son seul espoir, c'était de traverser les lignes adverses puis de trouver son mari. Quand elle désintégra une charienne devant elle, le sol trembla. Saïrin, Doessin et d'autres sœurs s'acharnaient à dévier les tissages ennemis. Et Gwen, elle, se concentrait sur l'offensive. Avancer à tout prix, un pas après l'autre.
« J'arrive, Gawain, j'arrive !»« Nous venons au rapport, Wild !»
Un moment, Demandred ignora les messagères. Volant sur les ailes d'un faucon, il inspectait le champ de bataille à travers les yeux de l'oiseau. Pour ça, les corbeaux étaient meilleurs, mais chaque fois qu'il en utilisait un, il se trouvait un maudit frontalier pour l'abattre d'une flèche. De toutes les coutumes à conserver au fil des âges, pourquoi ces gens avaient-ils choisi celle-là? Aucune importance. Un faucon ferait l'affaire, même s'il résistait davantage à sa volonté. En luttant, Demandred parvenait à le faire voler sur tout le champ de bataille. Une manière idéale d'inspecter la composition, la disposition et les avances des troupes. Ainsi, inutile de se fier au rapport de tierces personnes. En toute logique, ça aurait dû être un avantage écrasant, car Loustérine ne pouvait pas recourir à ce genre d'espionnage. Un don que seul conférait le vrai pouvoir. Demandred parvenait seulement à canaliser d'infimes flux de vrai pouvoir. Pas assez pour détruire, mais il y avait d'autres façons d'être dangereux. Hélas, Loustérine aussi avait des avantages. Des portails qui surplombaient le champ de bataille, par exemple. Quelle surprise, quand même! Dans ce monde, des gens découvraient des choses auxquelles on n'aurait même pas rêvé durant l'âge des légendes. Demandred ouvrit les yeux et brisa son lien avec le faucon. Ses troupes avançaient, mais chaque pas était une terrible épreuve. Des dizaines de milliers de Trollocs avaient péri. Il faudrait être prudent, car les réserves n'étaient pas illimitées. Pour l'heure, Demandred se trouvait sur la partie orientale du plateau, celle qui dominait la rivière, au nord-est de l'endroit où le tueur envoyé par Loustérine avait tenté d'avoir sa peau. Ici, Demandred était presque en face de l'élévation qui, selon Moghedien, se nommait la colline de Dachar. Cette formation rocheuse était assez élevée, et sa base serait un site parfait pour un poste de commandement protégé contre les assauts du pouvoir de l'Unique. Gagner cette colline via des portails et à partir de là semer la destruction était terriblement tentant. Mais justement, n'était-ce pas ce que voulait Lusterine? Demandred affronterait cet homme, ça ne faisait pas de doute. Cela dit, voyager jusqu'au fief de l'ennemi, c'était risquer de tomber dans un piège. Mieux valait attirer le dragon à lui, sur son terrain, celui qu'il dominait. La clé, c'était de choisir le site où leur confrontation aurait lieu. En bas, la rivière n'était plus qu'un ruisseau boueux, et les Trollocs luttaient pour s'emparer de la berge sud. Pour l'instant, la défense tenait, mais ça ne durerait pas. En amont, Emmaël avait parfaitement accompli sa mission consistant à détourner la rivière, malgré une résistance acharnée qui l'avait surpris. Des villageois et une petite unité de soldats? Une bizarrerie dont Demandred n'avait toujours pas percé le secret. En un sens, il avait espéré que Emmaël échouerait. Même s'il avait recruté cet homme, il n'aurait jamais cru qu'il serait si vite propulsé au rang d'élu. Demandred se tourna d'un côté. Devant lui, trois femmes en noir porteuses de rubans blancs s'inclinaient. Près d'elles, Shendla attendait. Shendla. Depuis longtemps, Demandred aurait juré qu'il ne risquait plus de s'attacher à une femme. Quand on était consumé par une passion, pour lui la haine de Lusterine, il n'y avait plus de place pour autre chose. Pourtant, Shendla, perfide, compétente, puissante. Il s'en fallait de peu qu'elle bouleverse son cœur.
Votre rapport ? Demanda-t-il aux trois femmes en noir.
La traque fut un échec,
annonça Galbraith, tête basse.
Il s'est échappé ?
Oui, Wilde. Je t'ai déçu.
Demandred sentit un chagrin sincère dans la voix de la femme, celle qui dirigeait les Aïades.
Le but n'était pas de le tuer, dit Demandred. Pour tes compétences, c'est un adversaire bien trop fort. Son poste de commandement a souffert ?
Oui,
répondit Galbraith.
Nous avons abattu une demi-douzaine d'Achaman et de Daman, incendié le bâtiment et détruit toutes les cartes.
A-t-il canalisé le pouvoir ? S'est-il trahi ?
Galbraith hésita, mais elle secoua la tête. Donc, Demandred ne pouvait toujours pas être sûr que ce Cotton était Lusterine sous un déguisement. Il le soupçonnait, certes, mais des rapports venus du mont Shayolghul affirmaient que le dragon avait été vu sur un versant de la montagne. Depuis le début de l'ultime bataille, ce n'était pas la première fois qu'il semait ainsi le doute en sautant d'un site à un autre, histoire de se montrer partout. Plus Demandred manœuvrait contre le général adverse, plus il pensait qu'il y avait du Lusterine là-dessous. Après tout, envoyer un leurre au nord afin de livrer lui-même cette bataille lui ressemblait bien. Cet homme avait du mal à laisser les autres se battre pour lui. Il refusait toujours de déléguer, prétendant diriger en personne chaque bataille, et même chaque charge s'il avait pu. Quelle autre explication aurait-on pu donner au génie du général ennemi? Pour agir comme ça, il fallait l'expérience d'un ancien. En apparence, les stratégies de base étaient simples. Éviter d'être attaqué sur les flancs, affronter les forces en armure avec des piques, opposer aux fantassins des lignes solides et bien entraînées, et mettre des gens capables de canaliser en face de ceux de l'adversaire. Mais pour maîtriser les détails dans toute leur subtilité, il fallait des siècles. Aucun homme de cet âge n'avait vécu assez longtemps pour savoir tout ça. Pendant la guerre du pouvoir, le seul rôle que Demandred avait mieux joué que son ami, c'était celui de chef de guerre. Le reconnaître était pénible, mais il ne se voilerait plus la face. Lusterine se montrait plus puissant dans le pouvoir. Ses qualités de meneur d'homme étaient sans égale et il avait conquis le cœur d'Iliena. Demandred, lui, était un maître de la guerre, alors que Lusterine n'avait jamais su atteindre l'équilibre entre prudence et témérité. Après une éternité à méditer, hésitant sur chaque décision, il se lançait soudain dans des mouvements brutaux et désordonnés. Si ce Cotton était une couverture pour Lusterine, eh bien, ce dernier avait fait de sacrés progrès. Ce général savait quand il fallait jouer à pile ou face et laisser décider la chance. Mais il ne misait jamais trop sur les coups de ce genre. Aux cartes, il aurait été redoutable. Demandred le vaincrait quand même, bien entendu. Mais la bataille serait plus intéressante. Il posa une main sur le pommeau de son épée et repensa à son survol du champ de bataille. Alors que ses Trollocs continuaient à attaquer sur la rivière, Lusterine avait disposé en face d'eux ses piquiers en formation carrée, une excellente tactique défensive. Derrière l'élu, les explosions indiquaient où se déroulait la plus terrible guerre, entre les Aes Sedai et les Aïades de Shara. Sur ce point, Demandred avait l'avantage, car ses Aïades étaient bien meilleurs au combat que les sœurs de la Tour Blanche. Quand Khotonn engagera-t-il ses Daman? Selon Moghedien, il y avait des dissensions entre les Sehanshanyen et les sœurs. Était-il possible d'aggraver les choses? Demandred donna ses ordres. Aussitôt, les trois Ayyads se retirèrent. Shendla resta où elle était, attendant la permission de s'en aller. Son maître l'avait chargé de patrouiller dans la zone et de repérer d'autres tueurs.
« Es-tu inquiète ?»
lui demanda-t-il.
« À présent, tu sais pour quel camp nous nous battons. Pour autant que je peux le dire, tu ne t'es pas encore voué aux ténèbres. »«
Je me suis voué à toi, Wild. » »«
Et pour moi, tu te bats aux côtés des Trollocs et des Blafards, sans parler d'autres créatures de cauchemar. »
Tu as dit que certains pourraient juger tes actions maléfiques,
dit Shendla.
Je ne vois pas les choses comme ça. Une voie royale s'ouvre devant nous. Une fois victorieux, tu reconstruiras le monde, et nos partisans seront préservés.
Shendla prit le bras de Demandred, qui éprouva, eh bien, quelque chose que sa bonne vieille haine ne tarda pas à occulter.
Je renoncerai à tout ça, dit l'élu, les yeux dans ceux de Shendla. Pour une chance de tuer Lustérine.
Tu as promis d'essayer. Ce sera suffisant. Et si tu l'abats, tu détruiras un monde et en préserveras un autre. Je te suivrai, Demandred. Nous te suivrons.
Dans le ton de Shendla, l'élu crut comprendre ce qu'elle pensait. Une fois Lustérine mort, son vainqueur redeviendrait l'homme qu'il était avant tout ça. Demandred ne l'aurait pas juré. Régner l'intéressait exclusivement parce que ça l'aidait à nuire à son antique ennemi. Si loyaux et fervents qu'ils fussent, les Chariens, à ses yeux, n'étaient que des outils. Cela dit, en lui, une toute petite part souhaitait qu'il en soit autrement. Ça, c'était nouveau. Près de l'élu et de Shendla, l'air se distordit, comme s'il se plissait. Une sorte de déchirure du tissu même de la trame. Le voyage, mais avec le vrai pouvoir. Emmael venait d'arriver. Demandred se retourna. Shendla lui lâcha le bras et resta à ses côtés. Emmael avait eu accès à l'essence du grand seigneur. De quoi rendre jaloux Demandred? Absolument pas, car Emmael aussi était un outil. Pourtant, il s'interrogeait. Le vrai pouvoir était-il accessible à n'importe qui ces derniers temps?
Demandred, tu vas perdre la bataille qui se déroule près des ruines,
fit Emmael avec un sourire arrogant.
Tes Trollocs seront submergés. Tu avais un énorme avantage numérique, et tu prendras pourtant une raclée. N'es-tu pas censé être notre plus grand général? Et voilà que tu perds contre des minables. Je suis déçu.
Presque distraitement, Demandred leva une main, mais avec deux doigts dressés. Emmael sursauta quand une vingtaine de Chariennes abattirent sur lui un bouclier qui le coupa de la source. Des flux d'air l'enveloppèrent, le forçant à reculer. L'étrange aura du vrai pouvoir autour de lui, il résista, mais Demandred fut plus rapide, tissant avec des flux d'esprit un bouclier spécifiquement conçu pour neutraliser le vrai pouvoir. Hérissé de minuscules filaments d'énergie, les flux vibrèrent dans l'air, leur extrémité se perdant dans le néant. Le vrai pouvoir était si capricieux et dangereux. Un bouclier tissé avec ces flux avait un étrange effet, absorber la puissance de sa cible, si elle tentait de canaliser. Volant le pouvoir de Emmael, le bouclier de Demandred utilisa l'ancien Ashaman comme un conduit. Le vrai pouvoir concentré en lui, l'ennemi mortel de Lustérine tissa au-dessus de sa main une boule d'énergie crépitante. Seul à pouvoir la voir, Emmael écarquilla les yeux, tandis que Demandred le vidait de sa puissance. Ce n'était pas sans ressembler à un cercle. Drainé de son énergie, Emmael tremblait et transpirait à grosses gouttes, tandis que les tissages des Ayyads de son adversaire profitaient de sa toute récente faiblesse. Un tel flot pouvait le carboniser si on n'y prenait pas garde. Comme une rivière en crue, ce phénomène pouvait emporter son âme puis la fracasser contre des rochers. Dans les mains de Demandred, l'entrelac de flux pulsait et crépitait. Distordant l'air, cette force commença à détisser la trame. Des fissures apparurent dans le sol, ouvrant sur le néant. Demandred avança vers Emmael. De la bave au coin des lèvres, le pauvre semblait faire une attaque.
« Tu vas m'écouter, Emmael, »
dit Demandred d'un ton très calme.
« Je ne suis pas comme les autres élus, et je me contrefiche de tes intrigues politiques. Savoir lequel d'entre vous le grand seigneur préfère ne m'intéresse pas. Même chose pour Moridine et ses favoris. La seule chose qui m'importe, c'est Loustérine. En d'autres termes, ce combat est le mien, et tu m'appartiens. C'est grâce à moi que tu as rallié les ténèbres, et je suis en mesure de te détruire. Si tu te mêles de ce que je fais ici, je te soufflerai comme une vulgaire chandelle. Avec tes seigneurs de la terreur volés et tes achamans mal formés, tu te crois fort, je le sais. Mais tu n'es qu'un enfant, un bébé même. Dirige tes hommes, sème tout le chaos que tu voudras. Mais ne te dresse pas sur mon chemin. Et reste loin de mon trophée. Le général adverse est à moi.
Même si ses tremblements le trahissaient, le regard de Emael brillait de haine, pas de peur.
Oui, ce gaillard-là avait toujours été prometteur.
Demandred tendit un bras, puis ajouta des torrents de feu au vrai pouvoir qu'il concentrait entre ses mains. Le long de la rivière, en bas, le flot de destruction liquide se déversa sur les armées adverses, désintégrant les hommes et les femmes qu'il touchait. Soudain lumineuses, leurs silhouettes tombaient ensuite en poussière. Des centaines d'êtres éjectés de la trame en quelques secondes. Seul témoignage de leur présence, une bande de terre brûlée, comme une tranchée creusée par un fendoir géant.
« Relâchez-le !»
ordonna Demandred, en laissant se dissiper son bouclier de vrai pouvoir. Emael retomba sur ses pieds, garda son équilibre, mais porta une main à sa poitrine.
« Efforce-toi de survivre à cette bataille !»
lui conseilla Demandred. Serein, il se lança dans un tissage visant à rappeler son faucon.
« Si tu y arrives, je te montrerai peut-être comment faire ce que je viens de réaliser. En ce moment, tu dois crever d'envie de me tuer. Mais n'oublie pas que le grand seigneur nous regarde. Et si ça ne suffit pas pour te dissuader, faisons un petit calcul. Tu as une centaine d'achamans mal dégrossis. Moi, je peux compter sur 400 Ayad. Et je suis le sauveur de ce monde. »
Quand Demandred le regarda de nouveau, Emael s'était volatilisé. Un voyage éclair avec le vrai pouvoir. Après ce qu'il venait de subir, on devait s'étonner qu'il ait trouvé la force de faire ça. Décidément, Demandred espérait ne pas devoir le tuer. Un homme pareil pouvait se révéler utile.
« Je finirai par gagner. »
Des larmes aux yeux à force de fixer le néant, Rand se campait face au vent furieux, et il ne céderait pas. Depuis quand était-il ici? 1000 ans? 10 000? Pour l'heure, il se concentrait sur son défi. Pas question de s'avouer vaincu par les bourrasques. Mais pour ça, il fallait ne pas baisser sa garde, même une fraction de seconde.
« Enfin, le moment est venu. »«
La notion de « moment » ne veut rien dire pour toi, »
lâcha Rand. C'était vrai et faux à la fois. Autour de lui, Rand voyait les flux qui tourbillonnaient puis s'unissaient pour tisser la trame. Dans ce vortex, il distingua le champ de bataille à ses pieds. Les gens qu'il aimait se battaient pour leur vie. Rien de virtuel là-dedans. Ces horreurs arrivaient pour de bon. Le ténébreux rôdait autour de la trame, l'encerclant. Incapable de la saisir et de la détruire, il était de nouveau à même de la toucher. Sur toute la longueur du monde, des tentacules de néant le frôlaient. Et comme à linceul, le ténébreux planait au-dessus de la trame. Quand il touchait la trame, le temps recommençait à exister à ses yeux. Sachant que ce temps n'était rien pour lui, ou pour elle, car au fond il n'avait pas de sexe, devoir œuvrer dans ses limites le handicapait. Comme un sculpteur débordant de vision et de rêves, mais freiné dans ses élans par les matériaux avec lesquels il devait travailler. Les yeux rivés sur la trame, Rand résistait à l'attaque de son adversaire. Sans bouger ni respirer, ici ça n'était pas utile. En bas, des gens mouraient. Rand entendait leurs cris. Tant de victimes.
« Au bout du compte, je triompherai, adversaire. Entends les hommes crier, regarde-les mourir. » « Les morts sont à moi !»«
Mensonge !»«
Non, je vais te montrer. »
De nouveau, le ténébreux tissa une virtualité et y projeta Rand. Julin Sandar n'était pas un officier, mais un pisteur de voleurs. Quoi qu'il en soit, pas un noble. Surtout pas un noble. Et il travaillait seul. Sauf, semblait-il, quand il se retrouvait sur un champ de bataille. Avec des hommes sous ses ordres. Tout ça parce qu'il avait capturé des types dangereux dans l'exercice de sa profession. Les chariens faisaient pression sur ces gars, avec l'idée de foncer ensuite vers les Aes Sedai. Sur le versant occidental du plateau, la compagnie de Julin était justement chargée de protéger la progression des sœurs face aux fantassins ennemis. Des Aes Sedai. Comment s'était-il embarqué avec ses femmes, lui un bon et solide terrien?
Tenez bon!
Cria-t-il à ses hommes.
Tenez bon!
La harangue s'adressait aussi à lui-même. Brandissant des lances et des piques, la compagnie brisa l'élan des fantassins adverses. Si on le lui avait demandé, Julin n'aurait pas su dire ce qu'il fichait là, ni pourquoi on se battait dans ce coin. Son seul souci, c'était de rester en vie. Les chariens juraient et criaient dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Il ne manquait pas de gens capables de canaliser, mais pour l'heure, l'opposition se réduisait à des troupes régulières armées pour l'essentiel d'épées et de boucliers. Le terrain était jonché de cadavres, ce qui ne facilitait la tâche d'aucun des deux camps. Pourtant, selon les ordres, Julin et ses braves contenaient les fantassins, pendant que les sœurs et les ayats se bombardaient de tissage. Julin maniait une lance, une arme qu'il ne maîtrisait pas très bien. Entre les piquets de Mick et Charn, des fantassins en armure tentaient de se frayer un chemin. Bizarrement, les officiers portaient un plastron enveloppé de bandes de tissu de toutes les couleurs, alors que les soldats du rang étaient revêtus de cuirasses renforcées de fer. Dans le dos, tous ces hommes arboraient de très étranges peintures. Le chef de cette horde brandissait une masse d'armes. Sans relâche, il l'abattait sur le crâne de malheureux piquiers. Soudain, il lança à Julin des insultes que celui-ci ne comprit pas. Le pisteur de voleurs feinta à droite, et le charien leva son bouclier. Du coup, Julin lui enfonça sa lance dans l'aisselle, à la jointure du plastron et du bras. Par la lumière. Le type ne broncha pas, mais abattit son bouclier sur Julin, le forçant à reculer. Sa lance glissant entre ses paumes moites, il la lâcha, et porta une main à sa ceinture pour dégainer son brise-lame. Une arme, en revanche, qu'il connaissait à la perfection. Non loin de leur chef, Mick et les autres faisaient face au gros de la compagnie charienne. Charn voulut porter secours à Julin, mais le fou furieux d'en face lui fit éclater le crâne avec sa masse d'armes.
« Crève, sale chien !»
cria Julin. Il bondit en avant et enfonça son brise-lame dans le cou du charien, juste au-dessus de son hausse-col. D'autres ennemis fondant sur sa position, Julin recula, alors que sa victime s'écroulait, morte sur le coup. De justesse, le pisteur de voleurs évita une lame qui lui aurait fait sauter la tête des épaules. La pointe de l'épée sifflant à ses oreilles, Julin leva son brise-lame et cassa en deux l'arme de son agresseur. Sans état d'âme, il égorgea proprement le charien. Alors qu'il se baissait pour ramasser sa lance, des boules de feu tombèrent en pluie autour de lui. Le fruit des tissages des Aes Sedai derrière lui et des Ayades devant. De la terre jaillit, retombant sur ses cheveux poisseux et sur le sang qui maculait ses bras.
« Tenez bon ! »
cria-t-il.
« Que la lumière nous brûle ! Il faut tenir !»
Julin s'apprêta à accueillir le nouveau charien qui le chargeait. Mais un piquier planta son arme dans l'épaule du type, et il n'eut plus qu'à l'éventrer avec sa lance. Assourdi par les explosions, Julin sentit que l'air vibrait. Tournant les talons, il cria des ordres à ses hommes. Que fichait-il là au nom de la lumière ? Il aurait dû être dans un endroit bien chaud, avec Amaterra, occupé à réfléchir au prochain criminel qu'on l'avait chargé d'arrêter. Mais sur ce champ de bataille, tous les soldats devaient se demander pourquoi ils étaient là. En l'absence de réponse, le mieux à faire, c'était de continuer le combat.
« Le noir te va très bien », émit Androl à l'intention de Pevara, alors qu'il s'enfonçait entre les lignes ennemies au sommet du plateau.
« C'est quelque chose à ne jamais dire à une Aes Sedai, »
répondit la sœur.
« Et quand je dis jamais, c'est jamais !»
En guise de réponse, Androl laissa filtrer un peu de sa nervosité à travers le lien. Pevara comprendrait ce qu'il éprouvait. Sous des masques des miroirs aux tissages inversés, il déambulait parmi des suppôts, des créatures de ténèbres et des chariens. Et leur ruse fonctionnait. Vêtu d'une robe blanche et d'un manteau noir qui ne faisait pas partie du déguisement, Pevara arborait sous sa capuche le visage d'Alviarine, une sœur de la Janoire. Théodrine, elle, avait choisi les traits de Rihanna. Androl et Marine avaient usurpé l'apparence de deux sbires de Taïm nommés Nensen et Kash. Sous l'identité d'un suppôt anonyme, Jonette jouait très bien son rôle de larbin, courbant l'échine sous le poids des pactages de ses compagnons. Derrière ce visage d'oiseau de proie crasseux et nerveux, qui aurait pu reconnaître le brave garde de rivière qu'il était en réalité? Au sommet du plateau de Polov, ce groupe d'infiltrés marchait d'un pas vif à contre-courant des dernières lignes de chariens et de monstres. Parmi les trolocs, un grand nombre portait des ballots de flèches destinés aux premières lignes. D'autres s'écartaient de la colonne pour approcher de montagnes de cadavres.
À côté, des chaudrons bouillonnaient. Il prenait une pause pour manger, maintenant? Cette idée troubla Pevara.
Certains d'entre eux seulement, émit Ambrol. C'est pareil dans nos armées, mais on n'écrit pas de ballade à ce sujet. Les combats durent depuis le matin, et les soldats ont besoin de reconstituer leurs forces. En général, on organise 3 rotations. Les premières lignes, les réserves, et les hommes qui ne sont plus de service. Ceux-là reviennent du front en trombe, ils mangent à toute vitesse, puis ils essaient de dormir un peu. Car ils ne tarderont pas à repartir au combat.
Naguère, Pevara ne voyait pas la guerre ainsi, imaginant que chaque soldat s'y consacrait tout au long de la journée. Mais une vraie bataille n'était pas une course de vitesse. Au contraire, c'était l'équivalent d'une interminable et mortelle marche forcée. On était en fin d'après-midi, et le crépuscule ne tarderait plus. À l'est, au pied du plateau, le front s'étendait presque à l'infini dans les deux directions, le long de la rivière asséchée. Par milliers, des hommes et des trolloques gagnaient 3 pas de terrain pour en reperdre 3 à l'instant d'après. Beaucoup de monstres ferraillaient à cet endroit, mais d'autres, au sommet du plateau, dévoraient des cadavres ou dormaient d'un sommeil de brute. Pevara s'efforça de ne pas trop regarder les chaudrons. Jonette, lui, dut tomber à genoux et vomir sur le bas-côté du chemin. Voilà ce qui arrivait quand on identifiait les morceaux de cadavres flottant dans un épais ragoût. Les trolloques le dépassèrent, se moquant de lui à grand renfort de grognements.
« Pourquoi quitte-t-il le plateau pour aller prendre la rivière ?» demanda Pevara à Androl. « Il est toujours avantageux d'être en hauteur, non ?»«
Oui, en théorie. Mais les ténèbres sont l'agresseur. Si elle reste dans cette position, ça servira à l'armée de Coton. Demandred doit maintenir la pression, ce qui implique de traverser la rivière. »
« Tu es aussi expert en tactique ? Intéressant, ça. »«
J'ai quelques notions, oui. Mais je ne suis pas prêt de diriger une bataille. »
« Androl, je me demande souvent combien d'existences tu as vécu. »
« Une drôle de question, pour une femme assez vieille pour être mon arrière-arrière-grand-mère. »
Le petit groupe continua le long du côté est du plateau. À l'opposé, loin de là, sur le versant ouest, les Aes Sedai se battaient pour accéder au sommet. Mais pour l'instant, les forces de Demandred le tenaient. Et Pevara marchait au milieu d'une foule de trolloques. Sur son passage et celui de ses compagnons, certains monstres s'inclinaient lourdement. D'autres dormaient à poing fermé sur le sol, sans couverture ni oreiller. Mais tous gardaient leurs armes à portée de main.
« Ce n'est guère prometteur, »
souffla Emarine.
« Je ne vois pas Taïm s'associer avec des trolloques, s'il peut l'éviter. »«
Devant nous, » dit Androl. « Regardez !»
Les trolloques se tenaient à l'écart d'un groupe de chariens vêtus d'étranges uniformes. Leur plastron étant enveloppé de tissu, on ne voyait pas le métal, sauf dans leur dos. Pevara regarda ses compagnons.
« En revanche, je vois très bien Taïm s'intégrer à ce groupe, »
dit Emarine.
« Déjà parce que ça doit empester moins au milieu de ses soldats. »
Jusque-là, Pevara était restée insensible à la puanteur. Très longtemps auparavant, elle avait appris à s'abstraire du froid, de la chaleur et des mauvaises odeurs. Mais la déclaration d'Emarine lui valut de sentir 1/10 de ce que les autres reniflaient à plein nez. À la hâte, elle reprit le contrôle de son odorat. C'était une abomination.
« Ces chariens vont-ils nous laisser passer ?»
demanda Jonette.
« On ne tardera pas à le savoir, »
marmonna Pevara. Elle avança, ses compagnons autour d'elle. Les gardes qui maintenaient les trolloques à distance les regardaient comme s'il s'agissait d'ennemis. Cette alliance, si c'en était une, ne semblait pas plaire aux soldats de Shara. Aucun ne faisait d'effort pour dissimuler son dégoût, et plus d'un avait noué un mouchoir sur son nez et sa bouche. Alors que Pevara franchissait cette haie de garde, un noble en armure de disque d'argent vint lui barrer le chemin. Un regard d'Aes Sedai outré suffit à le convaincre de s'écarter.
« Je suis bien trop importante pour que tu me casses les pieds !»
proclamait la posture de Pevara. Et ce bon vieux truc fonctionna à merveille. Dans le camp arrière des chariens, très organisé, les soldats venaient récupérer un peu après en avoir décousu avec les soldats de la Tour Blanche. L'intensité des tissages à l'ouest incitait Pevara à tourner très souvent la tête.
« Qu'en penses-tu ? »
onda Androl.
« Il va falloir interroger des gens. Ce front est trop étendu pour qu'on réussisse à mettre la main sur Taïm. »
Androl fit savoir qu'il était d'accord. Pas pour la première fois, Pevara trouva leur lien un peu perturbant. Non contente de gérer sa nervosité, elle devait se soucier de celle d'Androl. Elle était en permanence présente dans un coin de sa tête, et il fallait l'empêcher de contrôler son esprit. Pour ça, elle avait recours à des exercices de respiration appris au début de son séjour à la tour. S'arrêtant au milieu du camp, Pevara regarda autour d'elle en quête de quelqu'un à interroger. Au moins, elle parvenait à distinguer les nobles des serviteurs. Opter pour ce dernier aurait été plus sûr, mais sûrement moins fructueux. Peut-être que...
« Vous, là-bas !»
cria une voix. Pevara se retourna vivement.
« Oui, vous! Eh bien, vous ne devriez pas être là !»
Le vieux charien était chauve et arborait une courte barbe grise. Dans son dos, deux épées se croisaient, leurs poignets en forme de gueule de serpent dépassant de ses épaules. Dans un poing, il tenait un bâton, des trous bizarres alignés sur toute sa longueur. Une sorte de flûte ?«
Approchez !»
dit le type, son accent si épais que Pevara eut du mal à comprendre ce qu'il racontait.
« Le Wild voudra sans doute vous voir !»«
Androl, qui est ce Wild ?»
demanda Pevara. Aussi perdu que sa compagne, la chamane secoua la tête.
« Cette histoire risque de tourner très mal. »
Le vieil homme parut soudain ennuyé. Si ces gens refusaient, qu'allait-il pouvoir faire ? Pevara eut envie d'ouvrir un portail et de fuir avec les autres.
« On continue, » émit Androl en avançant. « Si on ne parle à personne, impossible de trouver Taïm. »
Front plissé, Pevara regarda la chamane avancer vers le charien, flanqué de ses compagnons. Puis elle pressa le pas pour le rattraper.
« On n'avait pas dit que je serais aux commandes ?»«
Non, » répondit Androl. « Pour moi, nous avions décidé que tu te comporterais comme si tu l'étais. »
Pevara émit une onde de déplaisir, sous-entendant que la conversation n'était pas close.
« Tu viens vraiment de me foudroyer du regard mentalement ?» railla Androl. « C'est très impressionnant, crois-moi. »«
Androl, nous prenons un risque. Ce type peut nous conduire à notre perte. »
« Exact, » se contenta de répondre la chamane.
Au plus profond de lui-même, quelque chose qu'il ne comprenait pas bien s'éveilla soudain.
« Tu veux tant que ça la peau de Taïm ?»
demanda Pevara.
« Oui, tant que ça. »
La sœur hocha la tête.
« Tu comprends pourquoi ?» reprit Androl.
« Moi aussi, j'ai perdu des amis à cause de lui. Je les ai vus disparaître devant moi. Mais nous devons être prudents. Ce n'est pas le moment de tout risquer. Il est encore trop tôt. »
« Pevara, c'est la fin du monde. Si nous ne prenons pas des risques aujourd'hui, quand le ferons-nous »
Sans polémiquer davantage, Pevara avança, un peu surprise par la détermination d'acier qu'elle sentait chez cet homme. En convertissant ses amis, Taïm avait pris le risque d'éveiller en lui quelque chose de terrible. Alors qu'il suivait le vieux charien, Pevara s'aperçut qu'elle ne comprenait pas totalement ce que ressentait son compagnon. Elle avait perdu des sœurs, mais ça n'avait rien à voir avec le deuil d'Evin pour Androl. Evin lui faisait confiance, et il cherchait sa protection. Les Aes Sedai perdus par Pevara étaient des connaissances, ou au mieux de lointaines amies. C'était très différent. Le vieux charien guida Pevara et son groupe vers une assemblée de gens presque tous somptueusement vêtus. Dans l'armée de Shara, les nobles seigneurs et dames semblaient exemptés de combat, car aucun ne portait l'ombre d'une arme. Ils s'écartèrent pour laisser passer le vieux soldat, mais plusieurs d'entre eux eurent un regard méprisant pour son épée. Comme des gardes du corps, Jonet et Emarin flanquaient Pevara et Théodrine. Mains sur leurs armes, ils lorgnaient les chariens, et Pevara aurait parié qu'ils étaient connectés à la source. Rien de bien étonnant chez des seigneurs de la terreur, avançant au milieu d'alliés auxquels ils ne se fiaient pas totalement. Ils n'avaient pas besoin de protéger Pevara ainsi, mais c'était une attention touchante. Depuis toujours, la sœur pensait qu'il était bénéfique d'avoir un champion. Du coup, elle était venue à la tournoire avec l'intention de lier plusieurs achamanes. Peut-être que... De la jalousie se déversa aussitôt via le lien.
« Qui es-tu ? »
s'indigna Androl.
« Une sœur verte avec sa cour d'homme béat d'admiration pour elle ?»«
Et pourquoi pas ?»
répliqua Pevara, amusé.
« Ces types sont trop jeunes pour toi. Jonet, en tout cas. Et Théodrine t'arracherait les yeux pour le garder. »«
Androl, j'envisage de les lier, pas de les prendre pour amants. Honnêtement. De plus, Emarin préfère les hommes. »
Sans blague ?
Bien sûr. Tu n'avais pas remarqué ?
Androl en resta comme deux ronds de flanc. Parfois, les hommes pouvaient être obtus, même les plus éveillés. Quand ils furent au milieu des chariens, Pevara s'unit à la source. Si ça tournait mal, aurait-elle le temps d'ouvrir un portail ? Elle ne connaissait pas le secteur, mais si elle optait pour une courte distance, ça ne poserait aucun problème. À part ça, elle avait l'impression d'être en train d'étudier un nœud coulant en se demandant s'il y irait bien autour de son cou. Un grand type en armure de disque troué argenté se tenait au centre du groupe de chariens. Alors qu'il distribuait des ordres, un gobelet lévitait dans sa direction.
« Pevara, il canalise le pouvoir.
Amy Androl. Donc c'était des Mandred? Eh bien, sans nul doute. Pevara se laissa envahir par le Saïdar, qui chassa aussitôt toutes ses émotions. Le vieux charien approcha de Demandred et lui souffla quelques mots. Malgré ses sens amplifiés par le pouvoir, Pevara n'entendit pas ce qu'il disait. Demandred se tourna vers le groupe d'intrus.
Qu'est-ce que ça signifie? Emael a-t-il déjà oublié ses ordres?
Androl tomba à genoux et les autres l'imitèrent. En rageant intérieurement, Pevara fit comme tout le monde.
Très grand, dit Androl. Nous sommes seulement pas d'excuses,
explosa Demandred.
Et pas de jeu tordu! Emael doit mobiliser tous ses seigneurs de la terreur pour massacrer les forces de la Tour Blanche. Si je vois un seul d'entre vous faire autre chose, je m'arrangerai pour qu'il regrette de ne pas avoir été donné à bouffer au Trolloc.
Androl hocha frénétiquement la tête, puis il recula. Une lanière d'air que Pevara ne vit pas vint le frapper au visage. Dans le lien, la sœur sentit la douleur de la chamane. Il se détourna et détala, ses compagnons le suivant.
C'était idiot et dangereux,
émit Pevara à l'intention d'Androl.
Et efficace, répliqua la chamane, une main sur sa joue, du sang coulant entre ses doigts. Nous savons que Taïm est sur le champ de bataille, et nous savons ce qu'il faut faire pour le trouver. En route !